Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à vous tous et bienvenue. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Aujourd'hui, on parle ensemble d'un trésor découvert il y a 5 ans dans la Creuse. On va rencontrer aussi une créatrice de robes de mariée dans la Sarthe. Et puis on va tester de la cuisine de rue concoctée par de grands chefs à Lyon.
C'est très varié, un trésor, une robe et on passe à table. On parle aussi des aidants, ces 8 à 10 millions de personnes qui aident un proche malade ou handicapé. Avec l'association Avec nos proches.
Et on commence par l'info de ce vendredi 13 septembre, c'est avec Simon de Faux-Compris. Bonjour Simon.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Bientôt un coup de pouce pour les 8 millions d'aidants en France.
Environ 40 euros net par jour pour ceux qui accompagnent un proche malade ou dépendant au quotidien. Certains travaillent, d'où un congé proche aidant de 3 mois.
Sauf qu'avant il n'était pas indemnisé, donc pas beaucoup utilisé.
Et donc ça va changer hein, grâce à cette aide de 40 euros. Soulagement pour Karine, maman d'un enfant de 13 ans, polyhandicapé moteur.
C'est plus facile pour les rendez-vous, les hospitalisations. C'est pas rien de s'occuper de notre enfant handicapé. Le problème, c'est que personne ne nous comprend. Donc, on est tous fatigués, physiquement et moralement. Il y a des hauts et des bas avec les handicaps, donc c'est très difficile à gérer. Ouais. Peut-être que ça va nous sortir une épine du pied, justement. C'est vrai qu'il y a des fois, on se retrouve tout seul à pas savoir quoi faire. Ne serait-ce que pour demander une aide, par exemple, à domicile. Voilà, on est tout seul, quoi. On est les oubliés. Bah, en même temps, c'est un peu le monde du handicap, hein.
Le gouvernement veut intégrer cette indemnité à la future réforme des retraites.
Et on va demander à une association d'aidants ce qu'elle en pense. C'est Avec nos proches qui met à disposition une ligne d'écoute pour les aidants, pour les informer et pour prévenir un épuisement. Le président de Avec nos proches est avec nous dans un instant.
Enquête ouverte à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Dans une vidéo partagée cette semaine sur les réseaux, un médiateur est violemment interpellé par un policier. Il a porté plainte. L'agent a d'abord été suspendu, puis mis en arrêt maladie pour contourner cette suspension. Pour l'heure, elle n'est donc pas encore effective. C'est l'heure du jugement pour Patrick et Isabelle Balkany. Lui risque 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Elle, 4 ans dont 2 fermes. Dans une affaire de fraude fiscale, le jugement démarre dans une demi-heure à Paris.
Mais le feuilleton Balkany ne se termine pas aujourd'hui.
Non, loin de là. Un retour au tribunal pour les époux de Levallois le mois prochain, cette fois pour blanchiment et corruption. Il faut faire encore plus d'efforts pour aider les sans-abri.
Et ça commence par un coup de main financier du gouvernement.
Et le nerf de la guerre, hein, le gouvernement qui va débloquer 45 millions d'euros supplémentaires l'an prochain. Le plan logement dure jusqu'en 2022.
Alors, aucune option n'est écartée pour la réforme des retraites.
Et non, le haut commissaire au projet Jean-Paul Delevoye confirme ce matin sur Inter que l'âge pivot à 64 ans n'a pas été rangé dans les cartons. Entre ça et la durée de cotisation, il faut peut-être trouver un compromis hein, qui va être étudié dans les prochains mois. Le projet retraite doit être bouclé avant l'été prochain.
Et en attendant, il fait des mécontents. Grève de la RATP à Paris et alentour aujourd'hui.
Dans le transport, sur la route, ça peut bloquer encore cet après-midi. Du mieux attendu après 17h. Deux autres manifestations sont prévues dans les 10 prochains jours. Une femme paralysée à cause d'une soupe de légumes.
Infection grave, mais surtout très rare, liée à un produit périmé.
Ouais, c'est arrivé cet été à une habitante de l'Essonne. Ça s'appelle le botulisme. La soupe de légumes était passée depuis 3 semaines, provoquant cette sérieuse infection qui peut être mortelle sinon traitée. Récit complet sur francebleu.fr.
Les Bleus à 40 minutes d'une finale de Coupe du Monde.
Yeah. On y croit. Hein. Yeah. Ils y croient, eux aussi, nos basketteurs tricolores. Après leur exploit contre les États-Unis, demi-finale contre l'Argentine, c'est dans une heure maintenant. On le sent, il fait particulièrement vibrer cette année le basket français. Je ne sais pas pour vous, Frédéric, Denis, mais il est souvent boudé au profit de la NBA. Américaine. Je sens que Frédéric, vous êtes passionné.
Absolument.
Mais qui sait, cette performance des Bleus pourrait changer ça à Maya Cazenave.
Gobert, Fournier, Batum, Tilikina, tous joueurs NBA et surtout tous en bleu pour ce championnat du monde. La France, emmenée par ses stars américaines, ne peut pas perdre, selon Alexandre.
Je pense qu'on peut le faire dans la continuité du foot et dans la continuité du hand. Je pense qu'il y a une dynamique et une culture de la gagne qui est en train de s'installer en France progressivement. On a des joueurs en NBA maintenant, il reste à convertir.
Ce championnat US fait rêver Einar Sigurdur et selon lui, il contribue à la médiatisation du basket, y compris en France.
Avant, on connaissait c'est vraiment juste les grands noms. On connaissait LeBron, Kobe. Maintenant, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent les joueurs moins connus. Maintenant, il y a des personnes, je sais pas, qui habitent dans le 7e, disons, qui vont aller supporter, par exemple, Memphis Grizzlies. Alors qu'avant, c'était vraiment que Bulls, les Knicks, les Lakers et c'est tout.
Christophe se lève régulièrement la nuit pour regarder ses matchs. Il l'avoue sans détour, le basket américain l'attire bien plus que les performances françaises. L'ambiance dans les gradins y est pour beaucoup.
De voir les matchs à la télé, quand l'équipe locale de doit défendre la moitié des supporters crient defense. Et malheureusement, ça, il n'y a pas en France.
Pas en France, mais peut-être en Chine. 19 000 spectateurs sont attendus pour cette demi-finale.
Sans parler de ceux quand même qui seront devant leur écran pour supporter les Bleus. Coup d'envoi dans une heure.
C'est simple, hein, pour se rappeler le coup d'envoi, c'est à la fin d'une heure en France.
C'est beau ça. Voilà, bah, rendez-vous dans une heure du coup à la fin de votre émission. Le retour du foot et de la Ligue 1 ce soir. Hein. Pareil Frédéric, je sens que ça vous avez bien menté.
Oui.
Restez. Deux matchs en ouverture de la cinquième journée. Lille-Angers à 19h et Amiens-Lyon à 20h45. Et demandez le programme de la fête de l'humanité. C'est ce week-end près de Paris. Edith Préto, Marc Lavoine, Aya Nakamura, Cassave. Allez, un bout de Cassave pour le plaisir et pour le soleil. Ah, 35 ans.
Ça, j'aime bien ça.
Pas une ride. Cassave demain à 18h, mais ça commence dès ce soir, la fête de l'Huma, et c'est jusqu'à dimanche à la Courneuve.
Avec Youssoundour aussi, avec Miossec, la fête de l'Huma depuis 1930.
Merci beaucoup, Simon.
Vous
Merci souhaite
à
une
vous.
Bonne après-midi et même un bon week-end.
Bonne émission.
À lundi, Simon.
À lundi.
Au revoir.
FranceBleu.fr. À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel, Thomas Coignac.
Et il n'y a que très peu de transports en commun jusqu'à 17h en raison de la grève à la RATP. Dans le métro, seules les lignes 1 et 14 circulent, les RER C, D et E roulent aussi, tout comme certains bus et trams, mais avec très peu de fréquences. De 17h à 20h, ça ira un peu mieux avec le retour des RER A et B. Des métros sur les lignes 4, 7, 8 et 9, mais qui ne desserviront pas toutes les stations. Sur les routes, heureusement, ça va mieux que ce matin, même si vous êtes ralenti sur l'A86 en intérieur, une demi-heure en gros, entre Gonesse et Nogent-sur-Marne.
Pour suivre le soleil, la météo, Frédéric.
Une perturbation s'étire de la Bretagne à la Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Sous un ciel assez encombré, on attend des averses éparses entrecoupées de quelques éclaircies. Elles seront plus généreuses en se rapprochant de la Loire ainsi que sur l'extrême nord du pays. Sur les deux tiers sud, c'est très ensoleillé avec des températures estivales, contrariées simplement en fin de journée par des nuages élevés débordant des Pyrénées. À Paris, il fait 24, à Amiens 20, à Belfort 25, à Limoges 30, à Biarritz 22 et à Marseille 29.
Le congé des proches des aidants sera bientôt indemnisé. Comment les associations d'aidants réagissent à cette nouveauté ? Avec nos proches, aide les aidants, les informe, les oriente et essaie de prévenir leur épuisement. Elle dispose d'ailleurs d'une ligne d'écoute que nous vous donnerons tout à l'heure. Le président de Avec nos proches est avec nous. Bonjour Guy Alboussière.
Bonjour.
Le congé spécifique de 3 mois pour les aidants qui travaillent existe déjà. Il va être indemnisé. C'est ce que vous réclamiez ?
Alors c'est un point effectivement que nous avons réclamé. Alors il faut savoir que là, d'après les informations actuelles, ça va être une indemnisation de l'ordre de 40 euros. Je rappelle que les aidants, ils font leur sacerdoce parfois pendant 24 heures. Donc globalement, ça représente 2 euros de l'heure. Donc c'est un peu un premier pas, c'est quelque chose que nous avions réclamé, mais je pense qu'il faut aller plus loin.
Alors il faut rappeler que ce congé dure 3 mois, qui peut éventuellement être renouvelé, mais qu'il peut être fractionné aussi. C'est-à-dire que ça peut correspondre à une journée par semaine pour aider un proche pendant plusieurs semaines.
Voilà, mais à 2 euros de l'heure.
Si on considère que c'est 24 heures.
Ouais. Voilà, parce que pour certains aidants, c'est 24 heures sur 24. Pour pas mal d'aidants, c'est 24 heures sur 24.
Alors
donc
on peut
c'est
dire...
un premier pas.
Oui, on peut dire que c'est un début. Ouais. On arrive quand même enfin à un statut, une reconnaissance de l'aidant, celui qui donne de son temps pour une personne malade ou handicapée.
Alors ça, c'est une revendication supplémentaire que nous avons aussi. C'est un véritable statut. Parce que là, c'est la reconnaissance, je dirais, du travail de l'aidant juste par un congé. Et comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Le véritable statut, ça sera plus, en particulier pour les personnes qui travaillent et qui sont obligées soit de s'arrêter carrément de travailler, soit de réduire leur temps de travail, et pour lesquelles, par la suite... Il faudrait que la solidarité nationale valide des trimestres, parce que ou sinon, à la retraite, ces personnes-là se retrouveront dans la même situation très délicate qu'elles connaissent pour les personnes qu'elles aident.
Et ça permet de préciser que cette information qui a été donnée par France Info ce matin concerne évidemment les personnes actives. On estime à 8 millions le nombre d'aidants en France. Parfois, on entend 10, 11 millions. C'est énorme. Ça fait beaucoup de familles. Pratiquement toutes les familles sont concernées d'une façon ou d'une autre, Guy Alboussière.
Alors, quasiment tout le monde est concerné ou le sera de toute façon. Parce que l'augmentation de la durée de vie, les progrès de la médecine font que de plus en plus de personnes peuvent se retrouver en situation de perte d'autonomie et devoir être aidées par un proche. Sachant que tout ça, en fait, ça permet le fait de ne pas rémunérer les proches aidants. Ça permet de faire quand même de très belles économies aux services de santé. Donc il paraît tout à fait justifié de demander que la solidarité nationale intervienne pour valider au moins des trimestres pour les personnes qui sont obligées de s'arrêter de travailler ou de diminuer leur temps de travail.
Eh bien, merci pour cette première réaction après l'annonce concernant les aidants, Guy Alboussière. Merci, bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Guy Alboussière, le président d'Avec nos proches, l'association qui participe à la Journée nationale des aidants le 6 octobre prochain avec le collectif Je t'aide.
Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Et aujourd'hui, nous découvrons un véritable trésor, 14 000 pièces d'argent et de cuivre trouvées dans la Creuse et étudiées depuis 5 ans.
Des pièces frappées pour certaines d'entre elles de Richard Cœur de Lion, pour vous situer un peu l'époque, c'est-à-dire que ça remonte au 12e siècle.
À l'occasion du salon du mariage qui va se dérouler ce week-end à Paris, nous allons à la rencontre d'une créatrice de robes dans la Sarthe.
Vous savez combien il y a eu de mariages l'an passé, Frédéric ?
Non, aucune idée.
235 000. Je ne donne peut-être pas le nombre de divorces tout de suite
pour
ne pas casser l'ambiance.
Non. Et puis on va faire un stop déjeuner à Lyon où de grands chefs proposent de la street food pendant plusieurs jours. On va tester.
C'est le Lyon Street Food Festival où l'on invite même des chefs étoilés. C'est dire qu'il est question de bien manger, même sur le pouce.
Vous avez vu, sacré programme dans Une Heure en France jusqu'à 14h. Il y aura aussi de très beaux cadeaux à remporter. Des compiles d'étalons France Bleu volume 1, volume 2. Les compiles d'étalons France Bleu de l'été. Et puis de la musique également. C'est Cargo avec Axel Bauer. On est ensemble sur France Bleu jusqu'à 14h.
Show.
Cargo d'Axel Bauer sur France Bleu à 13h17.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
5 ans, cela fait 5 ans qu'un véritable trésor a été découvert dans la Creuse lors de travaux chez un particulier. 14 000 pièces d'argent et de cuivre datant des plus anciennes de 1106 et frappées pour certaines du sceau de Richard Cœur de Lion.
5 ans, et on en parle aujourd'hui. C'est dire qu'il a fallu du temps pour les nettoyer, les répertorier, les évaluer.
Et nous sommes avec celui qui a réalisé ce travail, le numismate archéologue Dominique Dussault. Bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour.
Quelle a été votre première réaction quand vous avez vu ce trésor, toutes ces pièces ?
Sans poids, pour tout vous dire. C'est le poids de du récipient que m'avait confié l'inventeur quand je l'ai soupesé, effectivement. Son poids était très conséquent.
Et ça ressemblait à quoi ? On a parlé d'une forme de ballon.
Alors, quand il me l'a confié, moi, l'inventeur, il était dans un seau, tout simplement. Quand il l'a découvert, effectivement, ça avait la forme d'un ballon de basket, à peu près. C'était une boule métallique. Il savait que c'était métallique parce que c'était lourd. Et il l'a mise dans un seau. Et dans ce seau, il a mis des hydrocarbures, soit du gasoil, soit de l'huile, enfin, un mélange pour nettoyer, en fait. Et c'est que petit à petit qu'il s'est aperçu que des rondelles se détachaient.
Mais Dominique Dussault, c'est extrêmement rare de trouver autant de pièces au même endroit.
Alors, autant à la fois, effectivement, c'est assez peu courant, c'est vrai. Pour ma part, dans toute ma carrière d'archéologue et tout, je n'en ai jamais vu autant. En une seule fois, bien sûr.
Vous avez dénombré 28 provenances. Alors j'en donne quelques-unes seulement. Nantes, Provins, Bordeaux, Le Puy-en-Velay, Limoges, Poitiers, Vendôme. Ça veut dire que c'est des pièces différentes selon les villes et les régions ?
Alors, les monnaies de cette époque-là, les pièces de cette époque, elles étaient frappées par une autorité, bien évidemment, qui pouvait être un seigneur local, qui pouvait être l'autorité ecclésiastique, mais également le pouvoir royal. En cas particulier, il y en a très très peu du pouvoir royal. Ce sont essentiellement des monnaies féodales qui ont été frappées, donc, pas par des seigneurs.
Et est-ce qu'on peut du coup supposer quelque chose du propriétaire avec ce trésor ? Imaginez que c'était quelqu'un de riche déjà, un marchand, pourquoi pas ?
Oui, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer surtout que c'est un propriétaire qui était très itinérant.
Ah bon ?
Parce qu'une monnaie, elle est frappée dans un lieu. Et le fait qu'elle se trouve dans un autre lieu, ça veut dire qu'elle a circulé. Donc c'est le reflet de la circulation des biens et la circulation des personnes également. Ce personnage qui était à cet endroit-là était peut-être un marchand, effectivement, qui se rendait 2-3 fois par an dans les grandes foires qui sont connues comme Nantes, aux alentours de sa ville de résidence, bien évidemment. Hein, et les monnaies les plus lointaines, elles peuvent être liées à une circulation secondaire. C'est-à-dire que c'était déjà des marchands qui les avaient apportées dans un autre lieu. Il y en a très peu, finalement.
Vous avez parlé tout à l'heure, Frédéric, de Richard Cœur de Lion. Il y a des pièces qui sont frappées de Richard Cœur de Lion. C'est le roi d'Angleterre au 12e et, enfin, j'ai révisé pour dire ça facilement à la radio,
oui.
Mais aussi le comte de Poitiers.
C'est ça. Il y a des monnaies de Richard Cœur de Lion à l'effigie de Richard Cœur de Lion, enfin, en son nom, qui ont été frappées donc pour Poitiers et à Bordeaux également, puisque c'était aussi le duché d'Aquitaine.
Dominique Dussault, vous avez travaillé dans le secret pendant 5 ans. Pourquoi ? Il ne fallait rien dévoiler, il ne fallait rien dire au grand public ?
Je les ai d'abord étudiées, les monnaies. C'est pas pendant 5 ans. Enfin, je les ai étudiées pendant 3 ans. Après, je les ai restituées aux propriétaires à leur demande, bien évidemment. Sinon, je les aurais restituées au bout de 5 ans. Et j'ai mis 2 ans à rassembler tout ce qu'on avait fait. Puisque, étudier les monnaies, c'est les passer les unes derrière les autres, noter les différences. Bon, tout n'est pas achevé, bien sûr. Mais il m'a fallu tout ce temps-là pour le faire. Parce que la numismatique, c'est vrai que c'est quelque chose où je travaillais. Mais c'est une partie de mon temps de travail. Un archéologue, notamment un archéologue du ministère de la Culture, il fait quantité d'autres choses.
Oui,
mais... Donc il faut prélever le temps qui me permettait de le faire.
Bien sûr, mais on n'est pas à 2 ans près. Mais l'autre façon de poser la question, c'est comment vous avez fait pour garder un secret comme ça pendant 5 ans ?
Et pourtant, je les ai étudiés dans mon bureau. Hein. Chacun pouvait les voir quand je le faisais. Hein. Tout simplement, je n'en ai pas parlé.
Ah oui, on a remarqué. Oui, on vous écoute, Dominique Dussault.
Et l'inventeur comme la propriétaire du lieu où ça a été trouvé ont souhaité que ce ne soit pas divulgué tout de suite. Je les avais quand même prévenus, hein. Je leur ai dit ça, c'est quelque chose. On ne peut pas le laisser inconnu du grand public et inconnu des scientifiques, bien évidemment. Ça sera publié à l'issue du délai pendant lequel, effectivement, j'étudiais le dépôt monétaire. À cette issue-là, je le porte à la connaissance du grand public et du scientifique.
Alors, c'est très dur à évaluer parce que, normalement, il n'y a pas autant de pièces qui vont se retrouver sur le marché des collectionneurs, des spécialistes. Comment vous avez fait ça ?
Évaluer en...
En coût ? C'est-à-dire, qui va...
En coût.
Elles sont où, ces pièces, aujourd'hui ?
La mission du ministère de la Culture pour laquelle je travaillais n'a pas de mission d'évaluer un coût.
Oui.
Après, la propriétaire et l'inventeur souhaitent effectivement vendre ce dépôt monétaire. Mais bon, le monde des collectionneurs, il est ce qu'il est. C'est une monnaie, elle a de la valeur dès lors qu'on la réclame beaucoup. Dès lors qu'on en apporte, par exemple, sur le marché 6 900 d'un seul coup, la valeur, elle s'effondre, bien évidemment. Ensuite, la valeur d'une monnaie, elle est liée à quantité de conditions. D'abord, il faut qu'elle soit très bien conservée, très belle. Ensuite, il faut qu'elle soit issue d'un monnayage rarissime pour avoir beaucoup de valeur. Les monnaies du comte de la Marche, par exemple, on commence à bien les connaître.
Mais ce qu'on voulait vérifier, Dominique Dussault, c'est que le propriétaire qui faisait des travaux chez lui avec sa pelleteuse il y a 5 ans a récupéré aujourd'hui le trésor.
Absolument.
Voilà.
J'ai restitué le trésor, bien évidemment. Tout le dépôt monétaire est rendu et ils doivent se le partager à parts égales avec l'inventeur. Ça, c'est l'article 716 du Code civil, hein, sur la découverte des biens mobiliers enfouis.
Un trésor de pièces de monnaie remontant au XIIe siècle pour certaines découvertes dans la Creuse.
Merci beaucoup, Dominique Dussault. On vous souhaite une belle journée.
Je vous en prie.
À bientôt.
Merci bien.
Au revoir. Au revoir. Et nous, on joue, mais alors, le cadeau qui vous attend, il est juste magnifique.
C'est une montre ?
Non.
C'est un porte-téléphone ?
Non.
C'est une clé USB ?
Non, mais j'arrête parce que vous n'allez pas trouver. C'est un pack CD des talents France Bleu. Il y a le volume 1, le volume 2 et les talents France Bleu de l'été. Tenez, voici un petit extrait.
Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi, je ne suis qu'un homme, peut-être un bon.
Et ça, ce n'est qu'un tout petit aperçu. On a mis Angèle, on a mis Kenji Girac, il y a Claudio Capeo, ils sont très très nombreux. Amel Ben, vous l'avez entendu, mais bien d'autres. Voici la question pour remporter tout ce pack CD des talents France Bleu. Où est-ce que le roi Richard Cœur de Lion a été couronné ? Si vous avez bien écouté Denis Farou, ça ne devrait pas être trop compliqué. J'ai des propositions.
Oui,
est-ce que c'est à Reims ou à l'abbaye de Westminster ? Vous en avez parlé, donc vous nous appelez.
Vous êtes sûr que j'en ai parlé de ça ?
Ah, vous n'avez pas parlé du couronnement, mais vous nous avez dit qu'il était...
Ouais. Comte de quelque chose.
Comte de quelque chose et roi d'autre chose.
D'autre
voilà.
Chose.
0810 055 056, et puis restez avec nous, on va rencontrer une créatrice de robes de mariée dans la Sarthe, parce que c'est à Paris ce week-end que se tient le salon du mariage. Et puis à 13h45, nous allons flâner dans les rues de Lyon, et puis surtout, on va tester la cuisine de rue de grands chefs. Mais avant tout cela, Lady Gaga et la musique du film Star is Born.
Butter's on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I
and the whole world fades, I'll always remember us.
Et oui, Lady Gaga, est-ce qu'ils vont finir ensemble avec Bradley Cooper? C'est la question que tout le monde se pose.
Elle est avec Bradley Cooper?
Mais on ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'était Always Remember Us This Way. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Frédéric, bonjour Denis.
Bonjour Jean-Paul.
Vous êtes en Dordogne, Jean-Paul, où ça?
Oui.
Où ça?
À côté de Périgueux.
D'accord, très bien, on vous situe Jean-Paul. Et ce serait pas mal un pack CD des Talents France Bleu, hein. Il y en a beaucoup des CD. Hein.
Ce serait très bien.
Des heures de musique pour vous. Jean-Paul, où le roi Richard Cœur de Lion a-t-il été couronné? À Reims ou à l'abbaye de Westminster?
L'abbaye de Westminster.
Bien vu, parce qu'effectivement, il était roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers.
Comte de Poitiers, c'est ça que je voulais dire.
Comte du Maine et d'Anjou. Voilà, donc on vous envoie tout le coffret. Vous allez pouvoir vous régaler ce week-end, Jean-Paul.
Je vous remercie et je remercie toute l'équipe.
On embrasse toute l'équipe. On vous embrasse vous aussi, Jean-Paul. Et puis, on vous souhaite un bon week-end. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir, Jean-Paul.
France Bleu. France Bleu et M6 craquent pour le bon pain. La meilleure boulangerie de France finit sa visite en Alsace et en Lorraine avec France Bleu. Ce soir, à partir de 18h40, sur M6, découvrez la boulangerie qui accédera à la grande finale. Pour ne pas perdre une miette de la meilleure boulangerie de France sur M6, rendez-vous sur France Bleu et sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Thomas Coignac.
Et vous devez continuer de vous adapter à la grève de la RATP. Jusqu'à 17h, vous pouvez voyager uniquement avec les lignes 1 et 14 du métro, les RER C, D et E et quelques trams et bus, mais il faudra les attendre plus longtemps que d'habitude. Attention par ailleurs, le trafic est très perturbé à la gare du Nord, que ce soit sur les Transiliens, les RER ou les trains grandes lignes, parce qu'il y a eu un accident de personne. Et puis sur les routes, c'est le périphérique extérieur qui est compliqué au Nord. Il y a une voiture en panne juste avant la porte de la chapelle et un accident juste après, ça complique la situation.
Alain Souchon, évidemment, sous les jupes des filles, sous les robes de mariée. En tout cas, on va vous parler des robes de mariée dans un instant avec une créatrice de la Sarthe, parce que ce week-end à Paris, c'est le salon du mariage.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne, qu'elles veulent pas, qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palons, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu, blanc rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, affières, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie toute entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Alain Souchon sur France Bleu à 13h35, sous les jupes des filles, les robes des femmes, on va s'y intéresser aussi.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier.
J'ai l'honneur de vous céder la parole, Frédéric.
Oui, parce que j'allais dire non. Hein. Bon, alors c'est la saison des salons du mariage à Paris ce week-end, le mois prochain à Nice. Alors on s'est demandé si on allait vous parler de la bague, des dragées, du riz, des fleurs ou du traiteur. Mais comme Denis et moi, nous sommes de grands romantiques, nous avons opté pour la robe de mariée.
Une robe sur mesure, donc unique et personnalisée, créée dans un atelier de la Sarthe sur les hauteurs de la vieille ville du Mans.
La créatrice est dans Une heure en France. Bonjour Hélène Lajoigny.
Bonjour.
La mode des robes de mariée évolue, on imagine bien. Est-ce qu'il y a une tendance ? Quelle est la tendance du moment ?
La tendance a été longtemps, depuis quelques années, on peut dire qu'on est un peu dans le bohème, dans le fluide, dans la dentelle. C'est encore le cas, je pense, cette année. Et puis, je pense qu'on va revenir peut-être à des choses un peu plus structurées d'ici une ou deux saisons, je pense.
Hélène Lajoigny, vous n'avez pas forcément la réponse, mais je vous pose la question quand même. Pourquoi c'est si important la robe pour une future mariée ?
Je pense que ça évoque beaucoup de choses, peut-être plus de l'enfance et de cet aspect princesse, peut-être. Peut-être c'est ça pour une partie des mariés. Après, j'ai pas la réponse exacte.
Pour toutes.
Vous avez coutume de dire, Hélène Lajoigny, qu'on n'habille pas seulement un corps, mais aussi une personnalité. Ça veut dire qu'il faut connaître très bien la mariée quand on lui dessine une robe.
Alors, la connaître très bien, en tout cas réussir à la cerner assez rapidement par le premier rendez-vous, par les échanges qu'on peut avoir dès la première rencontre, ce qu'elle peut nous amener, ce qu'elle peut nous dire, ce que les autres aussi qui l'accompagnent peuvent nous dire d'elle. Donc, faut surtout la cerner rapidement, à la première rencontre. Voilà.
Vous faites des modèles uniques sur mesure, ça doit être énormément de travail. Combien d'heures pour une robe, en moyenne ?
En moyenne, on est sur une quarantaine à une cinquantaine d'heures en comptant bien sûr les essayages, tout ce que je vous dis, les rencontres, tout ça, le temps passé à écouter et à travailler sur donc les retouches et tout. Et donc entre la coupe, les essayages et la livraison, vraiment la robe finie, en gros c'est 40 à 50 heures, ouais, de travail.
Bon, c'est énorme. Ouais.
C'est pas mal.
J'imagine que vous travaillez dans un environnement agréable parce que vous avez affaire en fait à des personnes qui sont a priori heureuses.
De bonne humeur.
C'est C'est assez agréable, oui. Comme environnement, là, on peut difficilement trouver mieux. Voilà, on est dans un jour de joie, donc on prépare un jour festif, avec aussi beaucoup d'émotions. On touche à l'intime, pas mal. Donc, c'est assez agréable, effectivement, comme préparatif. Même si, en arrivant à la date, le stress monte un petit peu et il faut un petit peu le prendre en compte aussi. Mais c'est un accompagnement jusqu'au bout et qui reste assez agréable, oui, très agréable même.
Hélène Lajoignie, est-ce qu'il y a toujours de l'émotion quand les futurs mariés se découvrent que la robe est pratiquement finie, qu'elle se voit dans la glace? Est-ce qu'il y a un petit moment quand même émouvant pour vous aussi d'ailleurs?
Oui, pour moi aussi et oui, quasiment à chaque fois. Ouais,
à chaque fois
parce que... elle pleure, bah, ça dépend des personnes, hein, qui sont plus expressives que d'autres, mais on ressent vraiment une émotion quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai qu'en plus moi je travaille sur une robe qui n'est pas achetée telle que, hein, donc on la travaille au fur et à mesure des essayages, donc finalement elle la voit vraiment finie à la fin. Il y a vraiment un petit truc qui se passe, et pour moi aussi. de voir leur émotion, moi aussi, ça me fait aussi quelque chose.
Et puis c'est votre travail, c'est le résultat de votre travail, ouais. Donc c'est double émotion pour vous.
C'est double émotion, c'est une belle reconnaissance.
Et à propos d'émotion, Hélène Lajoignie, bon, c'est un tout petit peu indiscret, mais on a appris que vous vous êtes mariée cet été. On est curieux de savoir quel genre de robe vous portiez.
Alors, moi j'avais une idée assez précise de ce que j'avais envie pour le bas de ma robe. J'avais vraiment envie d'avoir les jambes libres, donc j'avais une robe plutôt courte et avec de la longueur derrière quand même, mais quelque chose d'assez structuré. Et j'ai mis beaucoup de temps à fabriquer le haut, à imaginer le haut, parce qu'entre ce qu'on s'imagine, ce qu'on dessine. Et ce qui va sur notre corps, il y a des fois une grande réflexion. Et ce qui se passe d'ailleurs pour les mariés, je pense que j'ai été la mariée la plus embêtante de l'année.
C'est normal. Voilà. Vous êtes créatrice de robes, c'est normal.
Vous comprenez mieux vos clientes aujourd'hui.
Exactement.
Et puis,
tout à fait. Oui.
Une autre chose, Hélène Lajoignie, c'est que bon, c'est quand même très coûteux. C'est normal. C'est énormément de travail. C'est du sur mesure. C'est une robe qu'on peut mettre qu'une fois dans la vie, ou vous allez nous dire qu'on peut éventuellement la recycler à d'autres moments. Mais enfin, c'est compliqué.
Alors, une robe, c'est compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai des collections où on peut mélanger, hein. C'est des collections, ce que j'appelle plurielles, où on a des hauts, des bas. À la fin, ça forme une robe, donc on ne voit pas du tout que c'est des hauts et des bas dépareillés. Donc ça, c'est une option pour effectivement remettre quelque chose, le haut, voilà. Après, oui, c'est un coût. Moi, je travaille donc de manière artisanale, hein, enfin un peu couture. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'heures, tout est fait en local. Donc le prix comprend aussi tout ce travail, hein, de sur mesure et de travail unique. Effectivement, c'est un budget.
Oui, mais bon, ça fait partie de toute cette journée fastueuse et qu'on espère unique.
Des robes.
C'est une journée qui amène à un beau budget, c'est vrai. Il y a plusieurs prestataires différents, suivant ce qu'on a envie, à l'extérieur.
On a senti un peu d'émotion depuis quelques minutes. Pourquoi vous me regardez comme ça,
Frédéric ? Non, c'est vrai, c'est très émouvant.
Le simple fait de parler de mariage et des robes de mariée créées dans la Sarthe chez Hélène Lajoignie.
Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui et tout nouveau de bonheur aussi. Hein.
Merci.
À bientôt.
Merci
bonne
beaucoup,
journée.
Au revoir
et continuez de chouchouter les futurs mariés. Kin, tout de suite sur France Bleu. Et avant, on va jouer une montre France Bleu Sport vous attend. Dites-nous en Chine. Quelle est la couleur traditionnelle d'une robe de mariée? Ce n'est pas le blanc. Quelle est la couleur traditionnelle d'une robe de mariée en Chine? Vous nous appelez 0810 055 056. Allez, Kin, je vous l'ai promis, c'est tout de suite. À mon avis, ils l'ont senti quand ils l'ont écrite, cette chanson, que ça allait être un tube. Everybody's Changing, chanson du groupe britannique Keane, qui était sortie en 2004 et qui avait été reprise par Lily Allen en 2009. Bonjour Géraldine.
Bonjour, bonjour à tous.
Où êtes-vous, Géraldine?
Eh bien écoutez, je suis à Saint-Estève, oui, dans les Pyrénées-Orientales, c'est à côté de Perpignan.
D'accord.
Il fait très très beau.
Très beau, très chaud aussi à mon avis pour ce week-end, Géraldine.
Tout à fait, après la pluie, ben, le soleil est revenu.
Vous avez des projets pour ce week-end?
Oui, je vais à Canet en Roussillon.
D'accord.
Il y a la ferme qui se déplace, elle est pleine de producteurs locaux avec des animaux.
Sympa.
Et voilà, on va faire un petit tour.
Canet ou Canet-Plage?
C'est Canet-Plage.
Voilà.
Il est précis, Denis. Attention, Géraldine. Géraldine, une montre France Bleu Sport vous attend. Est-ce que vous savez la couleur traditionnelle d'une robe de mariée en Chine?
Eh bien, je dirais rouge.
Oui, vous l'avez fait au hasard comme ça, Géraldine?
Oh, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu des reportages. C'est magnifique.
Oui, c'est très beau. Ça change, oui, nous, c'est blanc, blanc, blanc. Vous êtes mariée peut-être, Géraldine?
Non, non, pas encore, mais ça fait longtemps que je suis avec mon concubin.
Est-ce qu'il nous écoute? Quel est son prénom?
Il s'appelle Didier.
Didier, il y a un message subliminal. Géraldine,
pourquoi
vous fait...
Pourquoi pas en rouge?
Et pourquoi pas en rouge? C'est joli aussi, pourquoi pas, ça changerait. Géraldine, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous.
Écoutez, merci. Merci de votre bonne humeur aussi. Et je vous écoute tous les jours.
Ah, bah, ne changez rien, surtout, Géraldine.
Pas de souci.
On ne sera pas là demain, exceptionnellement, et dimanche non plus. On revient lundi, Géraldine.
Pas de soucis, je vous écoute.
Bon, et puis un petit mot à Didier, hein, ce serait bien quand même.
Voilà.
Grosse bise, Géraldine, bon week-end.
Il va entendre.
On vous fait une grosse bise. À bientôt, au revoir. Et toutes les machines aussi, elles ont un cœur. C'est Maëlle tout de suite sur France Bleu, dans une heure en France. C'est bien un peu de romantisme. Hein.
Toutes les machines ont
Ça vous plaît, Denis? Je sens que ça vous plaît.
Oui, ça me plaît.
Alors, c'est Maëlle, c'est la gagnante de The Voice saison 7 avec Toutes les machines ont un cœur. Et c'est sa coach, Zazie, qui lui a écrit ce titre. La musique est composée par Calogero.
Ceci explique cela.
Eh oui, elle n'a que 17 ans, la jeune Maëlle. Et à mon avis, l'avenir est bien rempli et surtout devant elle.
Une heure en France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Il n'y a pas que Maëlle qu'elle vend aux poupes. La street food aussi. La cuisine de rue, pour le dire autrement. Des plats à emporter, des food trucks ou bars à salade. Des hot dogs, des kebabs.
Et la cuisine de rue a son festival à Lyon. La marmite va bouillonner jusqu'à dimanche. Pour la 4e fois, il était temps pour nous de découvrir ce qui nous intrigue un peu, à vrai dire.
Le cofondateur du Street Food Festival est avec nous depuis Lyon. Bonjour Aymeric Richard.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir.
Le développement des repas pris sur le pouce est tel que l'on comprend ce festival. Mais on a un peu du mal à imaginer. Plantez-nous le décor, Aymeric.
Alors, je vais vous expliquer tout ça. On a lancé, Thomas et moi-même, ce festival il y a maintenant 4 ans. Le constat, il était le besoin de montrer une nouvelle façon de consommer la food à Lyon, et par ailleurs, comme vous le savez, la capitale de la gastronomie.
Oui, c'est vrai.
Donc, on sentait cette envie de se retrouver autour d'une nouvelle façon de voir la cuisine plus proche des chefs. Donc, le principe, c'est sortir des chefs de leur cuisine, les amener devant le public et les faire cuisiner des plats à manger sur le pouce devant nos festivaliers.
Aymeric Richard, est-ce qu'en France, on se met petit à petit à cette habitude plutôt américaine de manger dans la rue?
Ouais, c'est vrai qu'on sent cette tendance-là. Souvent, on associe ça à la malbouffe. Nous, on tend on veut absolument prouver le contraire. Vous verrez que sur notre festival, on a plus de 80 chefs qui sont présents avec la cuisine extrêmement qualitative. Donc les habitudes de consommation changent un peu, mais la qualité est toujours là.
Alors, de là à bien manger dans la rue, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'un chef triplement étoilé de la Côte d'Azur peut vous apporter dans les repas pris sur le pouce, Aymeric Richard?
Effectivement, on a la chance cette année d'accueillir Mauro Colagreco, 3 étoiles, le meilleur restaurant du monde. C'est très intéressant de voir ça. Ça montre à quel point ils ont besoin d'aller au contact d'un public un peu différent, de montrer la cuisine. Et puis quelque part, ils se mettent un peu en danger dans des formats où ils sortent de leur cuisine et ils se testent sur d'autres façons de cuisiner. Ça, c'est intéressant. Et puis, ils viennent aussi à la rencontre des autres chefs qui sont présents sur le festival.
Et on sent qu'ils aiment bien les défis, les grands chefs en général.
Exactement. Il y a un aspect de défi qui est très clair. Et puis de, comme je le disais, de rencontre avec les autres, de partage avec les autres, d'aller voir ce que proposent les autres chefs.
Alors vous avez invité cette année des villes comme Kobe, Madrid, Hong Kong et un pays, la Finlande. On mange à l'extérieur de manière différente dans ces pays ou alors c'est complètement mondialisé?
Oui, c'est vrai que l'approche dans ces pays, elle est beaucoup plus à l'extérieur qu'en France. La capitale, c'est Hong Kong. Moi, j'ai eu la chance d'y habiter. Les Hongkongais mangent quasiment tout le temps dans la rue. Et en France, on sent que ce mouvement est en train un peu de prendre de l'ampleur. Effectivement.
Alors, on peut manger quoi, du coup, Aymeric Richard? Parce qu'on a beaucoup parlé là de la façon de faire des chefs invités, mais on commence à avoir faim, honnêtement.
Donc, effectivement, il y a, comme je vous le disais, 80 chefs. Mmh. On a conçu la programmation de ce festival vraiment comme un espèce de grand road trip culinaire avec des chefs qui sont venus des 4 coins du monde et par conséquent des recettes qui vont être extrêmement variées. Mmh. Le chef Mauro Colagreco va cuisiner le poulpe. On a le chef Topi Ronka qui vient de Finlande qui cuisine une galette à base de champignons. C'est en tout cas bien loin du cliché du burger ou du hot dog.
Mais le poulpe, on l'emmène pour le manger dans la rue ou on le mange sur place alors?
Vous mettez sur un banc?
On le mange sur place. En fait, le principe, c'est d'avoir une portion qui sont vendues sur place entre 4 et 5 euros pour un triplement étoilé, je pense que c'est rien du tout, et dans des contenants qui permettent de s'attabler sur des sur des grandes tables ou de manger même debout, sur le pouce.
D'accord, d'accord. Mais vous, qu'est-ce qui vous tente? Vous allez manger quoi, Aymeric Richard?
Attendez, qu'est-ce
alors,
que vous avez mangé?
C'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire que l'organisateur du festival, c'est celui qui mange le moins bien, malheureusement.
Vous n'allez pas manger un jambon beurre à la boulangerie du coin, j'espère?
Non, je vous rassure. Mais effectivement, il y a plus d'une centaine de recettes qui sont faites sur le festival, et ce que le public vient chercher justement, c'est cette profusion et aller tester des plats qu'ils n'ont pas l'habitude de goûter.
Le public vient chercher aussi des plats pas trop chers, j'imagine.
Oui, ça c'est un point extrêmement important du festival, c'est qu'on veut que ça reste très accessible. Donc c'est à la fois accessible sur le profil des chefs, il y a des triplement étoilés, mais il y a aussi des chefs inconnus, des pépites. Et pour le public, on tient absolument à ce que ce soit très accessible. Donc nos portions ne dépassent pas 4 ou 5 euros.
Et on va manger, bien manger, et aussi faire la fête, parce que c'est ce que vous avez décidé pendant 4 jours à Lyon. Vous avez reconnu les Lyonnais de Ponta Preta, ils jouent ce soir, non?
Exactement, ils font l'ouverture de la grande scène sur l'Esplanade ce soir. Donc les deux autres facettes du festival, c'est la musique avec des concerts tout au long du week-end, mais aussi la culture avec plus de 130 ateliers en accès libre pendant le festival.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors? De tenir le coup du coup, Aymeric Richard?
On va essayer de tenir le coup, on a fait une première soirée hier. Donc pour l'ouverture jeudi, on a eu beaucoup de monde, à peu près 5000 personnes. Donc le temps est au beau fixe, les chefs sont prêts. On attend beaucoup de monde, effectivement.
Le plus grand festival français de cuisine nomade, on va dire, jusqu'à dimanche à Lyon, pour manger, bien manger et se détendre.
Ça donne envie de venir. Merci beaucoup, Aymeric Richard.
Merci à vous.
Bon week-end, au revoir.
Merci.
Une heure en France se referme. Aujourd'hui, on a commencé par découvrir un trésor, Denis.
Oui, ça se mange pas. Hein. 14 000 pièces de monnaie, dont certains remontent au 12e siècle dans la Creuse.
Et oui, on a ensuite célébré le mariage avec une créatrice de robes de mariée dans la Sarthe.
On a découvert les robes de mariée créées par Hélène Lajoigny dans la Sarthe, dont la sienne, puisqu'elle s'est mariée cet été.
C'est vrai, et puis on a terminé, on vient de l'entendre, avec de la nourriture de rue, de la street food, c'est vrai que ça passe mieux en anglais quand même, à Lyon, tout ce week-end.
80 chefs à Lyon pour nous régaler et pour se détendre aussi.
Qu'est-ce qui vous tenterait, vous? C'est le poulpe, hein, je sens.
Le poulpe, mais sur le pouce. Un poulpe sur le pouce, puisque c'est du street food.
Et en plus, c'est quand même le chef du meilleur restaurant au monde qui le concocte, donc ça va, tout va bien se passer. On revient lundi, si tout va bien, Denis.
Alors lundi, la semaine prochaine sera patrimoine et sécurité routière, on ne sera pas, vous verrez.
Et puis je vous donne comme promis la ligne d'écoute de Avec vos proches, c'était tout à l'heure, dans Une heure en France, nous en parlions aux alentours de 11h15. C'est le 01 84 72 94 72.
Le site des aidants.